Éloquence du vulgaire avec Lounès Darbois, une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme pur son, ring de bâtard et pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi
un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
T'es une merde, je dis-moi.
Éloquence du vulgaire.
Chers auditeurs, le camarade Darbois au micro de ERFM a la joie de recevoir aujourd'hui le camarade Lapine. Mon cher Lapine, comment vas-tu ?
Bonsoir, vous me laissez. Écoute, ça va très bien.
Vous connaissez, chers auditeurs, monsieur Lapine, auteur d'émissions qui sont des livres audio de garde, Céline, une âme française. Vous le savez, camarades auditeurs, dans une vie d'homme, le virage 35-40 ans semble être le plus difficile à négocier avec deux autres, celui de 16-24 ans, qui est l'âge où vous êtes le plus exposé au suicide et à la folie, disent les statistiques, et celui de 46-48 ans, où vous êtes le plus exposé à une mort inopinée. Regardez le nombre de grands hommes morts à 47 ans, c'est étonnant. Le virage 35-40 ans, donc. Jusqu'à ce passage, on pouvait encore se dire jeune ou prétendre encore construire sa carrière, ou considérer avoir le temps. Passé ce cap, il semble que la carrière soit non plus à faire mais faite, que les grands choix soient non plus remis à demain mais effectués hier, et que la vie soit déjà derrière soi. Peut-être que la vraie virilité se mesure non à l'explosivité spectaculaire et brève de la post-adolescence, mais à la constance d'un certain style de vie, maintenu dans le temps long contre vents et marées, à une fidélité aux premiers idéaux, à la jeunesse en somme, maintenue tout au long de l'âge adulte. C'est par là, précisément, que nous saisit le poète Dante Alighieri. Dès le début de sa divine comédie, dans cette ici très belle réédition de la maison Contre-Culture, agrémentée d'une couverture soigneusement dessinée et des illustrations du graveur Gustave Doré. Dante nous saisit dès le début par la crise de la quarantaine, en quelque sorte, pour nous présenter les questions les plus intemporelles sur l'existence, le devenir, la valeur de nos actes et leur rétribution en cette vie ou en l'autre. Ce texte grandiose et terrible, qui traverse enfer, purgatoire et paradis, qui a formé l'expression proverbiale « dantesque », a contribué à faire entrer l'Europe dans la Renaissance par le mouvement préalable de l'humanisme chrétien, c'est-à-dire par le maintien de la religion connue, teintée d'un retour aux grandes figures de l'Antiquité, mouvement que suivront Boccace, Pétrarque plus tard.
Boccace.
Et voilà, heureusement que notre camarade Lapine est là pour me corriger. Lapine, rappelons-le, helléniste, latiniste, nourri au lait des humanités classiques, de l'exégèse de Homère, de Pindare, de Cicéron, de Macrobe et de Dante, et plus récemment de Louis Ferdinand Céline, vous le savez. Le grand mouvement de la Renaissance, probablement suspect de décadence pour un janséniste, de paganisme pour un orthodoxe, d'idolâtrie pour un puritain, de shirque pour un ismaélite, et de trésors à rafler peut-être pour un margoulin d'autres obédiences.
Pourquoi tu dis margoulin ?
Margoulin, c'est quelqu'un qui essaie de vous, plus ou moins, extorquer vos biens avec la maîtrise qu'il aurait de la logique et de l'expression orale.
C'est un commerçant habile,
prompt à vous dérober votre bourse, n'est-ce pas ? Qu'il s'agisse d'humanisme, disons, généreux de gauche ou de puritanisme, disons, rigoureux de droite, les mouvements du Moyen-Âge et de la Renaissance se posaient sincèrement des questions que nous n'effleurons plus qu'à peine, croyant y avoir répondu par Darwin et Einstein, c'est-à-dire à peu près Loge et Cinna, respectivement. Ces questions, les voici. Que faisons-nous sur Terre ? Qui sommes-nous ? Et que devons-nous faire ? D'où venons-nous ? Et où allons-nous ? La Divine Comédie a l'audace d'entrer de plein pied dans ces questions dès la première strophe, dès le premier tercet du livre, en plaçant l'homme de 40 ans devant l'absurdité, le néant, la remise en question de toutes ses habitudes. Camarade Lapine, ici, c'est toi qui peux nous aider. Ton expertise est aujourd'hui requise. Oh, je sais que tu hausses les sourcils quand je dis expertise.
Je déteste ce mot.
Oui, mais allons. Fausse modestie ici. Tu peux ici nous aider à mettre en évidence les niveaux de lecture plus profonds que le simple premier degré littéral auquel se cantonnent les non-initiés de mon espèce, n'est-ce pas ? Donc, c'est pourquoi nous allons, avec toi, suivre, tel finalement Dante et Virgile eux-mêmes dans ce livre, nous allons suivre un parcours ascendant lors de l'exposé qui va suivre, partant de la Terre et montant vers les sphères plus élevées des exégèses assez pointues que tu vas sans doute nous proposer. Eh bien, nous allons étudier tout simplement, pour commencer, je crois, la première strophe, le premier tercet. Cher camarade Lapine, entrez dans le vif du sujet. La fameuse première strophe de l'œuvre, je te laisse la main.
Déjà, en préambule, tu dis qu'il y a plusieurs sens, ce qui était une chose absolument certaine pour Dante. Il y a plusieurs sens à donner à son poème. Il l'écrit textuellement au chant 9, au vers 61. « Ovo e cavete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. »
Bon, alors, le gamin Lapine lit en langue originale le texte. Quand il ne le récite pas, je précise pour les auditeurs, parce qu'on n'est pas filmé, mais donc Lapine peut à la fois lire la langue originale et réciter. Très bien. Et donc, au chant 9, que nous avons Dante qui fait lui-même l'explication de son poème.
Pas l'explication, mais il prévient ses lecteurs. Et c'est donc pour répondre à ton commentaire en introduction. Il prévient ses lecteurs en leur disant « Ô vous qui avez l'intellect saint, S-A-I-N, saint, admirez la doctrine qui se cache sous le voile de mes vers étranges. » Donc, il s'inscrit dans une tradition très ancienne qui veut que le poète écrit de manière ambiguë. Il y a le premier sens, le sens littéral, historique, c'est l'histoire qu'il raconte, et qui est déjà absolument extraordinaire pour qui veut rentrer dans le grand délire dantesque de cette énorme, pas épopée, mais cette espèce de voyage initiatique qu'accomplit Dante, accompagné de Virgile. Mais il prévient que derrière ces vers étranges, derrière ces histoires étranges, se trouve un enseignement. Et donc cela suppose évidemment, il prévient ses lecteurs, cela suppose que vous ayez l'intellect saint. Alors toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il y a une très vieille tradition selon laquelle le lecteur, quand il n'est pas guidé par l'esprit de l'auteur, par l'esprit du poète, ne peut comprendre que de manière gauche, de manière sinistre, l'histoire, ou le mythe, ou la légende. Quelque part, Dante, par ce tercet-là, prévient qu'il parle un peu comme un prophète. Ça a été très souvent montré.
Qu'il aurait codé sa langue, ou alors au moins, ou tout du moins, choisi attentivement chaque terme.
Ça, c'est certain.
À dessein.
De toute façon, pour un poète, il est évident que chaque terme était... Mais il s'inscrit, ça va plus loin. Il s'inscrit vraiment dans la tradition des Isaïe, des Jérémie, dans la tradition des prophètes bibliques. Il nous parle, et il sous-entend qu'il est lui, qu'il appartient à lui, par cette expérience initiatique dont il va nous raconter les événements de manière voilée dans son enfer, son purgatoire et son paradis. Il veut nous faire comprendre que lui aussi appartient à cette lignée prophétique de ces hommes qui ont connu une expérience effrayante, dit-il, d'ordre initiatique.
Et alors, d'une certaine manière, il s'inscrit dans cette lignée, oui, mais pas seulement dans une lignée biblique, mais aussi dans une lignée gréco-latine.
Si tu veux
faire lui-même la jonction de tout ça à un moment crucial, qui est la fin du XIIIe siècle,
tout à fait,
qui va venir vers la...
Et la Renaissance, exactement. C'est d'ailleurs le premier, c'est ça qui va signer. On n'a pas peur, si tu veux, en tout cas, Dante n'a pas peur du tout d'introduire dans son purgatoire ou dans son enfer, mais des figures qui viennent de l'Antiquité gréco-romaine. Enfin, dans les premières années du XIVe siècle, quand il compose son poème sacré, c'est vrai qu'avec nos yeux à nous, ça peut paraître un peu étrange qu'il mélange aussi facilement des figures mythologiques, des figures historiques de l'Antiquité gréco-romaine, des figures bibliques, et puis des figures de son temps. Et en plus, en se choisissant comme guide un poète latin, Virgile, qui reçoit donc l'ordre de guider Dante au milieu de l'enfer.
Virgile, qui lui aussi était un poète prophétique, par exemple, des bucoliques.
Oui, la quatrième.
La quatrième églogue des bucoliques. Oui. Une portée prophétique qui dit, quand même en l'an moins 30 avant Jésus-Christ, qui dit quelque part que...
Il annonce
qu'une vierge va enfanter un fils qui va régner sur le monde et lancer un nouvel âge d'or.
Tout à fait. C'est la fameuse quatrième églogue qui a frappé les grands-pères de l'Église. Saint Augustin en parle beaucoup, Saint Jérôme aussi.
L'idée est très chrétienne, finalement. Ça veut dire que le prophétisme, le caractère de prophète... Le charisme de prophète peut être donné, pas plus seulement à des gens, du peuple élu.
Tout à fait.
Ou plus exactement, que l'élection du peuple est étendue plus largement qu'elle ne l'était.
Ça, c'est pour Virgile. Virgile, rappelons-le, que Dante étudie, et il va beaucoup plus loin que l'étude de ses compagnons, de ses coétanes, de ses contemporains, puisqu'il le connaît par cœur. Il est brûlé d'un amour pour la langue, enfin pour les langues en réalité, pour à la fois le latin et pour l'italien. Et il ne va pas hésiter à introduire dans son enfer, même au purgatoire, des figures de l'Antiquité gréco-romaine.
Il y a donc toujours une espèce de caractère chez, chez Dante, caractère transcourant en fait. En lui-même, il fait la synthèse, il génère presque de manière génétique à partir de deux parties, le latin de Virgile et la langue italienne que lui, il parle tous les jours. Donc, d'un côté, il s'appuie sur la tradition biblique, de l'autre côté, sur la tradition homérique. Enfin, c'est toujours quelqu'un qui est entre deux parties, et au lieu de choisir ou d'être déchiré entre les deux, il en crée quelque chose de nouveau.
Ah oui, mais c'est tout à fait innovateur. Je veux dire, c'est tout à fait incroyable de mélanger les deux. D'ailleurs, la Renaissance, qui est donc ce mouvement, l'humanisme, qui est ce mouvement vraiment de réconciliation, ou presque, cette volonté de réconcilier les traditions païennes et les traditions chrétiennes, n'auraient pas existé s'il n'y avait eu Dante avant eux, évidemment.
Et c'est pas seulement une question d'imprimerie, comme essayent de nous raconter les Mélenchons et les autres archéo-maçons.
Je sais pas ce qu'ils racontent, mais évidemment que la Renaissance, c'est d'abord un enthousiasme chez des jeunes gens qui veulent absolument repartir à zéro et réétudier le latin, ce que fait Dante avant eux. Parce que le latin n'était connu que sous forme finalement très abîmé, c'était la grammaire de Donat qu'on connaissait, donc un latin assez... c'était du bas latin, c'était du latin d'église, si on veut. Et en fait, ces jeunes gens se sont dit « on ne veut plus connaître si mal le latin ». Le premier à faire ça, c'est Dante, se dire « je fonce, je veux étudier dans les Stas, les Boès, les Cicéron, les Sénèques, les Ovide, Properce et toute la bande, étudier pour raffiner leur latin, leur ramener à une certaine pureté, si tu veux, la langue ». Mais ce qui est génial chez Dante, c'est qu'il va aussi affirmer le primat de la langue maternelle sur la langue des clercs. Céline a un peu la même réflexion. C'est
il va croire en son génie, il va croire en la langue de son peuple, au point de l'imposer et de lui faire vaincre
la langue
du mandarinat local.
Il exprime textuellement dans son banquet un amour absolument absolu pour sa langue maternelle. Hein, c'est pareil pour Céline, qui parle de son français comme la langue royale, langue impériale. Les autres langues, c'est rien pour lui. Mais il y a une passion pour sa langue, et donc il y a cette espèce de fusion entre la langue maternelle, on va parler dialecte si on veut, et les connaissances héritées des clercs, de l'Église, du latin.
Pour prendre un exemple sur la base de ce que tu viens de dire, prenons le premier tercet. Pour entrer de plein pied dans l'œuvre, premier tercet très connu, que nombre en tout cas d'écoliers italiens apprennent par cœur très tôt. Qu'est-ce que le milieu de la vie dont parle le début du chant? Pourquoi l'âge des 35-40 ans est souvent le moment d'une crise? Et quelle est la crise que vit Dante? Quelle est la thématique de la forêt, de l'obscurité qui revient? Pourquoi aussi, par la suite, le recours à Virgile plutôt qu'à un autre?
Bon, peut-être on va commencer par faire sonner la lingua del si, la langue du si. On disait pas à l'époque de Dante l'italien, mais on va peut-être faire sonner ou résonner aux oreilles de nos auditeurs ce premier tercet qui est évidemment fameux entre tous. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva scura che la diritta via era smarrita. Donc si je traduis très littéralement, dans le milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais... Au passé simple, je me suis retrouvé par une forêt obscure que la voie de droite, était perdue. Alors, il y a évidemment énormément de choses, mais le premier point qu'il faut évidemment rappeler, c'est que notre Dante était plein d'Isaïe, plein de Jérémie. Quand il écrit « Nel mezzo del cammin di nostra vita », il fait évidemment immédiatement allusion à un verset d'Isaïe qui se trouve au 38e chapitre, au verset 10. « In dimidium dierum meorum vadam ad portas inferi »« Dans le milieu de mes jours, j'irai aux portes de l'enfer. » Donc, « Dans le milieu de mes jours, j'irai aux portes de l'enfer », dit Isaïe. Dante reprend ce verset et va proposer, lui, à la suite d'Isaïe, son propre chant, son propre commentaire, au fond, à Isaïe.
Isaïe qui n'est peut-être pas choisi au hasard, puisque c'est l'un des livres les plus prophétiques de tout l'Ancien Testament.
C'est un des
plus
grands...
étonnant et le plus pré-chrétien, d'une certaine manière.
Isaïe...
Enfin, il est ambivalent. Mais en tout cas, dans Isaïe, il y a un chapitre très clair aussi sur une Vierge qui va enfanter, elle aussi.
C'est ça, la Vierge qui enfante, Emmanuel, le Dieu avec nous en hébreu.
C'est ça.
Et donc, Dante commence, en fait, sans le dire, il commence en citant un verset de la Bible. « Nel mezzo del cammin di nostra vita ». C'est quoi ce milieu? C'est quoi ce chemin? C'est quoi notre vie? Pourquoi dit-il notre vie et pas ma vie? Pourquoi dit-il au milieu du chemin de notre vie et non pas de ma vie?
Oui, pourquoi?
Pourquoi? Ça, c'est la Bible encore, ça se trouve encore dans la Bible. L'âge d'un homme, ou la vie d'un homme, son âge idéal, sa vie, pardon, la durée maximale de la vie d'un homme est déterminée à 70 ans. Dans la Bible. J'ai pas les références, mais ça se trouve, il me semble, dans les Proverbes. Il faudrait vérifier. 70 ans, donc le milieu du chemin de notre vie, si on prend pour une durée, ça veut dire 35 ans. Tu parles de 35-40 ans, mais dans l'esprit de Dante, c'est 35 ans, c'est le sommet dans la vie d'un homme. Il y a sa naissance, il monte en vigueur, en puissance, en beauté jusqu'à 35 ans, et puis petit à petit, il descend, il décline jusqu'à sa mort à 70 ans. Voilà. Pourquoi 35 ans? Parce qu'il place cette expérience initiatique en l'an 1300, à Pâques de l'an 1300. On reviendra sur cette date, on reviendra sur cette année, qui est une année évidemment très importante dans la vie de Dante. Alors, on a parlé tout à l'heure des vers étranges et du fait qu'on puisse comprendre autrement ce verset,
oui,
par exemple.
Oui, des choix de chaque mot.
Voilà. On peut comprendre le camin, qui est le chemin, avec un seul M, c'est camin, qui veut dire la cheminée. Il y a le même... Un peu, ce sont deux mots apparentés, c'est une espèce de baronnoise entre le chemin et la cheminée en français, et en italien, cammine et cammine. Le chemin de notre vie, le chemin par lequel passe notre vie, c'est la colonne vertébrale. C'est un symbole qui est récurrent depuis l'Égypte ancienne, on pense au serpent qui représente la vie. Le serpent, tu sais, qui surplombe la tête du pharaon pour représenter qu'il appartient à la race des dieux. On pense à la kundalini des hindous.
Au caducée des pharmaciens.
Le caducée des pharmaciens qui vient de ce serpent dressé qui représente, qui est le symbole d'Esculape, le dieu de la médecine. C'est le serpent que dresse Moïse dans la Bible en demandant à son peuple de croire à ce serpent dressé pour être sauvé de je ne sais plus quelle peste.
Le serpent dressé n'étant pas porteur du même sens
que le serpent inversé tête vers le bas. Du reste, si on regarde une colonne vertébrale, si tu regardes la colonne vertébrale, ça ressemble en fait à un cobra inversé. Il suffit que tu l'inverses et tu as vraiment la colonne et puis le sacrum qui forme vraiment cette espèce de tête de cobra. Donc on voit bien l'idée. Dans le chemin de notre vie, dans le milieu du chemin de notre vie, le milieu du chemin, donc vraiment au milieu de cette colonne, je me suis retrouvé dans une forêt obscure, où la voie de droite était perdue. On peut très bien comprendre, j'étais, depuis mon incarnation ici-bas, n'est-ce pas, j'étais mal incarné, j'étais... Attention, il y a deux sens, parce qu'on pourrait très bien dire aussi, grâce à cette forêt obscure, où la voie de droite était perdue, eh bien, je me suis retrouvé. J'étais perdu, mais je me suis retrouvé. Comment est-ce que je me suis retrouvé? Parce que j'ai commencé par descendre au fin fond de l'enfer. Et puis j'ai réussi à remonter par le purgatoire, remonter dans l'Empyrée, par le paradis.
Dans le seul tercet, il y aurait tout le résumé de l'œuvre.
Si tu veux, ben exactement. Il y a une espèce d'ambiguïté. On peut le voir aussi dans un sens positif. C'est dans le milieu du chemin de notre vie à tous, dans mon incarnation représentée par mon épine dorsale, que j'ai réussi, par une forêt obscure, à me retrouver. Alors, il faut pas oublier, il n'y a aucun mot qui n'est utilisé par hasard chez Dante. Ritrovai, ça fait allusion, évidemment, au trouver, au troubadour. C'est la même racine, la même mythologie. Je me suis retrouvé, je me suis refait troubadour. Donc, j'étais homme vulgaire, homme du vulgus, pêcheur, et en tombant ici-bas, j'étais donc pécamineux. Et pourtant, j'ai fait l'expérience initiatique effrayante dont parle la Bible, et je me suis retrouvé. J'étais perdu et je me suis retrouvé. Donc tu vois, il y a cette ambivalence. La première lecture, on a compris.
Ça peut rappeler aussi le baptême, qui est une deuxième naissance.
C'est tout à fait ça.
En vous plongeant dans l'eau qui symbolise la mort, et où vous ne pouvez plus respirer,
oui.
Vous êtes obligé de vous en remettre à la grâce, et vous en sortez... Finalement, comme dans une deuxième vie. C'est l'un des sens du baptême.
Traditionnellement, en tombant dans ce monde, nous perdons la voie de droite. Nous sommes littéralement sinistres. Nous sommes dans la voie de gauche. Ça n'a rien à voir avec le gauchisme. Mais il faut retrouver le sens droit. Il faut retrouver l'intellecto sano, l'intellect sain. Nous l'avons perdu. Et c'est très récurrent dans les traditions anciennes que ce nous, en grec, ce sensus, comme traduit saint Jérôme, ce sens divin est un don, est une grâce, après laquelle les chrétiens ou les croyants doivent languir ou doivent prier, si on veut. Donc, je me retrouvais par une forêt obscure qui la diritta via era smarrita. Smarrita, à propos, c'est pas utilisé par hasard. Smarrita, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose de concret qui est un peu alangui, qui est un peu abîmé. C'est pas du tout perdu dans le sens abstrait. C'est smarrir, et le verbe...
C'est froissé, peut-être un petit peu oui, tu abîmé. Sais,
abîmé, ou... marrir.
En blessé.
Oui, ah, oui,
se
oui.
retrouver fort mari, c'est se retrouver embarrassé, se retrouver...
Oui, mais là, tu vois, c'est déjà un petit peu trop, peut-être. Mari, ça veut dire vraiment... attristé, je ne sais pas très bien, mais... smarita, ça veut dire, tu sais... quelque chose sur lequel on aurait trop forcé, qui serait abîmé. C'est ça que ouais. ça veut dire. Donc, c'est très concret. La diritta via, on croit que c'est la voie de droite, c'est quelque chose, bon, une image, pas du tout, c'est quelque chose qui est abîmé, physique. Tu vois ? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva scura che la diritta via era smarrita. Ah, quanta Dio, qual era cosa dura, esta selva selvaggia, aspri forte che nel pensier rinnova la paura. Ah, quant à dire ce que c'était, c'est vraiment une chose dure, cette forêt sauvage, âpre et forte, que dans ma pensée, donc si je dois y penser, ça renouvelle ma peur. Ma peur, c'est une expérience effrayante. L'expérience de cette forêt sauvage, âpre. Alors évidemment, ça c'est l'intérêt de connaître l'italien, en tout cas de le lire et de l'entendre, parce que c'est quand même de la poésie. Je veux dire, là on est dans des commentaires beaucoup plus...
C'est de la poésie, c'est même un chant à l'origine, tout cela est chanté.
C'est ça.
Et dans la traduction française, la traduction française aux éditions Contre-Culture, elle est aussi un poème. C'est-à-dire que si moi je lis le premier tercet, cela donne « C'était à la moitié du trajet de la vie, je me trouvais au fond d'un bois sans éclaircie, comme le droit chemin était perdu pour moi. »
On va repartir du latin. Sylva, ça vient de hulé en grec, c'est la première matière. C'est la matière première à partir de laquelle tu fabriques par exemple tes maisons. C'est le bois. Les alchimistes utilisent exactement le même terme pour désigner la matière noire, à partir de laquelle il y a la matière qui passe à l'état rouge, et puis jaune, et puis je sais plus quoi. Donc c'est la première matière, la prima materia. Hulé, donc c'est tout ce qui constitue le premier matériau. D'accord ? Donc forêt, bois, ça tu vois en français, peu importe, mais en italien, la silva. Silva qui fait sonner, selva qui fait sonner avec selvaggia, aspra, on entend le hein, c'est le lieu des serpents, on a envie de dire. Tu sais, la selva selvagge e aspre forte che rinnova la paura. On
la
entend
forêt sauvage.
La forêt sauvage. Bon. Première lecture, donc la forêt, cette forêt sauvage, c'est un endroit qui n'est pas civilisé. Je rappelle qu'autrefois, on disait de quelqu'un qui était civilisé, il était urbain, il avait un comportement urbain. Urbain voulait dire tu es civilisé, tu es poli.
Ça se dit aujourd'hui, vous êtes bien urbain, oui. Ça se dit encore un peu.
Tandis que le sauvage, c'est exactement, en français, selvaggia, ça vient du mot selva qui veut dire la forêt. C'est un peu tu vois, c'est celui qui vit encore dans les bois, c'est l'homme des bois.
Est-ce que le sens fuori, sortir, oui. s'exiler, est aussi valable pour forêt, fuori, forêt? Sortir, quitter, c'est sortir de la civilisation, c'est sortir de l'orbe, c'est sortir de la ville, c'est... La forêt se trouve toujours.
Peut-être qu'il y a un lien.
Là, lorsqu'on sort de la ville.
Je ne l'ai pas à l'œil, enfin, je l'ai pas en tête, peut-être. Il faudrait vérifier. Écoute, ça, mais en tout cas, donc, la forêt, c'est l'endroit de la sauvagerie, donc de l'animalité, si tu veux. Bon. Évidemment, on comprend très vite avec Dante, c'est évident qu'il parle aussi par parabole, par métaphore. Hein. On pense notamment à nos vieux contes traditionnels, le Riquet à la Houppe, hein, qui se balade dans la forêt. Bon, il y a plein...
Ou le petit pousset,
etc. C'est le lieu de la sauvagerie. Mais curieusement, c'est par le lieu de la sauvagerie qu'il faudra descendre jusqu'au fond de l'enfer pour atteindre le paradis. Dante est attiré par les hauteurs, comme dit plus tard le texte, il est attiré par ces lumières divines, et Virgile lui dit, tu sais, si tu veux l'atteindre, c'est pas qu'il faille monter, il va falloir que tu descendes jusqu'au bout, que tu fasses ton voyage au bout de ton enfer, ou au bout de l'enfer, au bout de la nuit de l'homme, dirait Céline. Hein. Pour atteindre l'élevé, tu dois d'abord descendre, ce qui est tout à fait quelque part traditionnel aussi, mais ça m'entraînerait.
C'est-à-dire que
c'est une catabase, oui, hein. C'est très ancien comme ouais. thème.
Il lui dit, tu as un idéal, tu vas d'abord mettre les mains dans le cambouis pour commencer à grimper, tu vas construire toi-même en quelque sorte les marches de ton je ne sais pas, de ton escabeau, disons. Ou de ton échelle de Jacob.
Mais c'est-à-dire que la tendance est toujours de partir dans les abstraits, dans les concepts, tu sais, d'idéaliser, etc. Alors qu'il dit, non, tu dois d'abord aller, tu dois voyager. Mais moi, je dirais même encore plus profondément, tu dois aller jusqu'au fond, presque de la misère humaine, de son péché. Si tu veux avoir la chance de pouvoir passer au purgatoire, et puis tu dois, c'est quand même extraordinaire. C'est pas l'idée d'échapper à l'enfer, c'est d'y aller jusqu'au bout. Ce que Céline, au fond, reprend dans son voyage au bout de la nuit. C'est une espèce de voyage initiatique qui descend. Comme dit Céline dans son voyage, on ne monte pas dans la vie, on descend. Il y a une descente, ce qui est un thème très ancien à la catabase, la descente aux enfers. Tu connais certainement le mythe d'Orphée et Eurydice. Tu sais que Jésus descend aux enfers entre sa mort le vendredi saint et sa résurrection le dimanche. Là-dessus, il y a un récit qui a été très célèbre au Moyen-Âge où on racontait ce que faisait Jésus aux enfers. Tu te souviens évidemment...
Oui, dans les pièces de théâtre, notamment.
Les petites pièces, mais c'est un thème très ancien que tu retrouves évidemment dans l'Odyssée. Hein, c'est l'évocation de Tirésias avec Ulysse. C'est la descente évidemment aux enfers dans le sixième chant de Virgile. Avec l'histoire du rameau d'or. Bon, c'est un thème très ancien, très traditionnel. Il y a une catabase, donc une descente, pour aller chercher un secret, pour aller chercher quelque chose qu'il faut ramener ensuite. Bon. Dante s'inscrit et dans la tradition chrétienne et dans la tradition païenne. Ce qui me paraît le plus important ici, c'est qu'il insiste sur la peur. Che nel pensier rinnova la paura. Et il va encore insister. Tante amar che poche più morte, ma per trattar del ben qui vi trovai, dirò delle altre cose qui vos corte.
Oui, c'est un peu plus long dans le premier chant. Ouais.
Io non so ben rire come vintrai, tante rapiendi sono a quel punto che la verace vi abbandonai. Ma poi che fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, etc., etc. Deux fois le mot de peur, c'est une peur qu'on appelait une peur bleue, c'est pas n'importe quelle peur, c'est une peur qui est le début d'une certaine sagesse, si on veut. Tu te souviens, dans la Bible, il y a la peur de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La vision de Jacob, de l'échelle de Jacob, dans la Bible, on se souvient, Jacob se réveille après cette vision, et il dit, mon Dieu, j'étais plein de peur.
Quel endroit effroyable, quel celui où je me trouvais. Ouais. J'étais dans la maison de Dieu.
Bethel. Oui, c'est Bethel. Et c'est le fameux Luz, L-U-Z, Luz. Oui, bien sûr. C'est une peur initiatique de la même façon que la Vierge Marie quand elle est saluée par l'ange Gabriel, la Vierge Marie. L'ange Gabriel lui demande, première chose que dit l'ange Gabriel, n'aie pas peur. Le texte nous indique par là qu'elle était terrorisée, évidemment. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, parce que le texte, souvent de l'évangile, est euphémistique.
Il faut comprendre qu'il y a une peur qui est le début d'une certaine sagesse, ce que Céline, du reste, dira de manière très très plaisante dans l'église, à sa façon. Faire dans sa culotte, voyez-vous, c'est le commencement du génie. Ouais, ouais. Bon, c'est à sa façon, mais il dit la même chose. Et Dante nous dit ici, c'est une expérience qui m'a terrorisé. Et donc, évidemment, si on n'a pas toutes ces références, pour clore peut-être un peu sur cet aspect des lectures possibles, ce qui paraît compliqué aujourd'hui pour les lecteurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas toutes ces références bibliques ou même païennes qu'avait Dante. Autrement dit, il est évident et c'est normal qu'à première lecture, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire Lucain, Sénèque, Boèce, Stace, Virgile, Isaïe, Jérémie, etc., etc., il est évident que beaucoup de références vont lui échapper, ça c'est normal.
Et pourtant, ce texte se laisse lire très agréablement, comme un poème, comme un chant, comme un compagnon de voyage qui nous emmène, qui nous entraîne, et qui est extrêmement plaisant à lire et captivant.
Mais c'est tout le génie évidemment des chefs-d'œuvre.
C'est-à-dire que même si moi je ne connais aucune des références dont on parle ici, je suis un parfait néophyte, je vais simplement le lire comme on pourrait feuilleter une revue. Ce texte reste vraiment captivant jusqu'à la fin.
Tu te souviens...
savoir le dénouement.
Tu te souviens ce que disait Anatole France. Tu te souviens ce qu'il disait, on en a parlé l'autre jour. Oui. Mais il y a cette citation qui est assez géniale.
Si tu la retrouves.
Je vais essayer de la retrouver. Mais qui est une citation assez géniale parce que... Je l'ai ici. Si la race future gardait quelques mémoires de notre nom ou de nos écrits, nous pouvons prévoir qu'elle ne goûterait notre pensée que par ce travail ingénieux de faux sens et de contresens qui seul perpétue les ouvrages du génie à travers les âges. La longue durée des chefs-d'œuvre est assurée au prix d'aventures intellectuelles tout à fait pitoyables, dans lesquelles le coq à l'âne des cuistres prête la main aux calembours ingénus des âmes artistes. Je ne crains pas de dire qu'à l'heure qu'il est, nous n'entendons pas un seul vers de l'Iliade ou de la Divine Comédie dans le sens qui y était attaché primitivement. Vivre, c'est se transformer. Et la vie posthume de nos pensées écrites n'est pas affranchie de cette loi. Elles ne continueront d'exister qu'à la condition de devenir de plus en plus différentes de ce qu'elles étaient en sortant de notre âme. Ce qu'on admirera de nous dans l'avenir nous deviendra tout à fait étranger. Et donc c'est normal que des chefs-d'œuvre comme l'Iliade, l'Odyssée, la comédie de Dante, la divine comédie comme elle l'appelle Boccace, ou tant d'autres...
Les fables de La Fontaine.
Subissent... En fait, chaque génération y apporte sa propre compréhension, et c'est normal, et tant mieux, je vais te dire. Ça veut dire que c'est pas figé, ça n'est pas mort. Ça vit avec le lecteur.
Oui, puisque à chaque nouvelle génération, ce sont des œuvres qui sont si riches qu'elles disent beaucoup sur les situations que nous vivons à un temps donné.
Toujours.
Et qui même, peut-être même une sorte de source dans laquelle puiser pour expliquer, comprendre ce que nous vivons.
Enfin, on en fait tous l'expérience. Tu aimes bien Bach, je crois. Tu aimes bien Bach, oui. Ou Beethoven. Je ne sais pas pour toi, mais ma première écoute de la Chaconne quand j'avais 18 ans n'est pas la même écoute que j'ai aujourd'hui à 43 ans. Et pourtant...
On a l'impression de trouver des choses.
Et pourtant, l'émotion est toujours là. Je veux dire, il n'y a pas de honte à ne pas connaître Stas ou Terence et lire quand même Dante. En revanche, il faut être bien prudent et se dire qu'on a une lecture, mais qu'évidemment, des chefs-d'œuvre, si plusieurs siècles de gens intelligents consacrent ceci comme étant un chef-d'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pendant plusieurs siècles, des fous furieux enthousiastes se sont recopiés des passages les uns les autres. En un temps, on n'existait pas encore l'imprimerie, jusqu'à l'imprimerie, puis ça va se diffuser par l'enthousiasme des gens. Donc si c'est porté par 7 siècles d'enthousiasme, c'est que forcément, si moi je ne ressens pas ça, avant de dire c'est la merde, peut-être que c'est moi qui ne suis pas encore tout à fait sur le diapason de Dante.
Il faut aussi une certaine humilité pour entrer dans une œuvre et accepter d'éteindre la musique qui est peut-être autour de nous, qui nous remplit. Accepter de se mettre au calme et
De l'humilité, de la simplicité, ne pas s'en vouloir si au début, enfin je veux dire, c'est tout à fait normal que tu ne puisses pas à la première écoute admirer la grande fugue de Beethoven, qui paraît tellement moderne encore aujourd'hui. C'est tout à fait normal, ça demande une askesis, une ascète, c'est-à-dire une pratique, un exercice.
Un exercice, ouais.
Un exercice, et
pourtant, je veux dire, j'ai jamais fait une seule leçon de solfège, mais effectivement, quand on entend une œuvre comme ça, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, on est tout de suite pris. Je sais pas comment expliquer.
Je crois que c'est l'émotion, c'est ça.
Bah, on comprend ce que la personne veut dire ou veut transmettre, quoi, et alors.
Tu es d'accord aussi que quelqu'un qui a fait, évidemment, de la musicologie, qui a fait, évidemment, de l'harmonie, du contrepoint, évidemment, lui, son jugement sera d'autant plus aigu et plus, disons...
Est-ce que c'est pas un écueil, ça, le côté musicologue, ça finit en Pierre Boulez ?
Je ne parle pas de ça, je parle juste que, pour apprécier une œuvre d'art, je dis que, au-delà de l'émotion, c'est pas à moi de mesurer l'émotion de quelqu'un qui n'a pas les codes de la musique par rapport à l'émotion que quelqu'un pourrait avoir en ayant les codes de la musique... Ça, c'est une chose. Mais après, dans la connaissance d'un chef-d'œuvre, quel que soit l'art que tu considères, évidemment, plus tu connais, toi, cet art, cette pratique, c'est comme tout, un œnologue, évidemment, qui, quelque part, il a pas les codes, mais enfin, il apprécie, je ne sais pas s'il apprécie mieux.
Mais il classifier mieux.
Peut-être, si tu veux. Oui, c'est vrai, mais je ne dis pas que c'est mieux dans l'absolu. Je dis juste que, bon, quand tu es passionné par quelque chose, évidemment que tu finis par vraiment connaître des trucs que le profane ne maîtrise pas, ce qui ne veut pas dire que le profane est incapable d'être ému lui aussi, que ce soit par le verre de vin qu'il boit, par l'œuvre qu'il lit, etc. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait.
Donc tout ça pour dire que, comme tu dis, l'histoire que tu lis en traduction de Dante, c'est une histoire dans laquelle on se laisse emporter. Mais il faut jamais se dire « j'ai compris ».
D'ailleurs, Dante est non seulement un auteur qui choisit avec beaucoup de soin ses mots, mais c'est même un auteur qui en invente des nouveaux, je crois.
Oui. Et ben, c'est comme Céline. On appelle ça des dantismi, des dantismes, comme on dirait des sélinismes. Par exemple...
Des néologismes,
des néologismes de Dante, on les appelle en italien des dantismi. Par exemple, il y a le très célèbre verbe qu'il invente qui est trasumanare. Transumanare, le transhumanisme est un dérivé de transumanare, qui est une invention de Dante, qui veut dire quelque chose comme aller au-delà des limites humaines. Oui. Trans, ça veut dire au-delà. Ça, c'est une invention, mais... par exemple, il invente inurbarsi, ça veut dire se rentrer dans une ville. Donc, rentrer dans une ville. Il invente. Ben Céline, il invente.
S'urbaniser quasiment.
S'en urbaniser, mais ça veut dire je m'en urbanise, ça veut dire je rentre dans une ville qui n'existe pas, mais il l'invente. Il y a plein de traits communs avec Céline. Céline, on se souvient, invente des mots comme englander, enfioter, s'enfurier, je me remplis de fureur, je m'enfurie. Ça, sont des inventions céliniennes, des néologismes comme
ça. Donc ici, ça signifie que Dante invente des mots au XIIIe, XIVe siècle, oui. Et des mots qui demeurent aujourd'hui encore dans la langue.
Voilà, oui.
Et même, on sait aussi que l'italien, oui. Bon, non seulement le latin, certes, oui. Mais l'italien aussi a influencé beaucoup les autres langues latines, dont le français.
Oui, mais ça, c'est...
C'est arrivé jusqu'à nous aussi, peut-être.
Mais aujourd'hui, tu as, je sais pas moi... Zola a inventé le nom propre Nana.
Nana, ouais, c'est vrai.
Et c'est passé dans le.
Oui, oui, c'est-à-dire que c'est. Nana et c'est lui qui
C'est créateur impose. Mais être fait comme un rat, c'est une expression qu'invente Céline, qui est rentrée dans le langage courant. Le blabla qui n'est pas exactement une invention célinienne, mais c'est lui qui va la populariser énormément avec son bagatelle. L'histoire.
C'est la marque des grands auteurs, finalement, de maîtriser et d'aimer leur langue au point de la faire aimer par les autres et aussi de réussir à inventer des termes, des expressions qui vont demeurer.
Ouais, parce que Céline a inventé énormément de choses qui, malheureusement, mais parce que les gens n'ont pas lu, moi je suis par exemple fou d'un verbe qu'il a inventé qui est miraginer. Donc c'est imaginer et en même temps s'imaginer des mirages.
Se
faire des idées.
Ce qu'on appelle peut-être daydreaming en anglais.
Si tu veux, oui c'est ça, miragine. Mais c'est magnifique en français.
Oui,
mais tu miragines, ça veut dire tu t'inventes une vie, enfin tu t'inventes une life. Miraginer, tu vois, tu imagines et c'est un mirage pour toi. Mais Dante, pareil, Céline dit l'histoire ne repasse pas les plats. Ben ça passe dans le langage courant.
Et c'est lui qui a inventé cette expression.
C'est lui qui invente lors d'une interview en 57. Il sort ça comme ça, l'histoire ne repasse pas les plats. Et ça frappe tellement les auditeurs de l'époque que ça passe dans le... Mais c'est Dante invente la chatte et on est parents, ça va y qu'entrate. Et abandonner
tout. Vous qui entrez ici, laissez ici toute espérance.
Tu vas à Rome, tu rentres dans n'importe quelle toilette, dans une boîte de nuit, la chatte et on est parents, ça va y qu'entrate. Bon, écoute, tu vas rentrer dans une puanteur, pas possible. C'est devenu tout à fait.
C'est ça le propre. Des expressions qui deviennent proverbiales.
C'est ça le propre des créateurs, c'est que c'est un peu des papas. Tout le monde va le reprendre à sa sauce. Ça va tomber dans le comique, c'est normal. C'est pour ça qu'on dit de Dante que c'est le père de l'italien. C'est le père, quoi. Il a engendré, alors que c'était pas le premier à écrire en langue vulgaire, mais par l'ampleur de son œuvre, par la force de ses images, la force de son histoire, qui a tellement impressionné tellement d'artistes tout le temps. Le penseur de Rodin, on l'oublie trop souvent, c'était à la base Dante, sur son énorme porte monumentale qui représentait la porte de l'enfer. Le penseur que tout le monde connaît de Rodin représentait en réalité, c'était sur cette porte-là.
Rodin, quand il a sculpté
cette porte monumentale qui
c'était censé être ce personnage du penseur
appartenait à cette immense porte qui faisait, je ne sais pas, 6-7 mètres de haut. Il y a travaillé les 30 dernières années de sa vie. Et tu vois sur cette porte donc des statues. Enfin, tu regarderas.
Et cette statue-là est censée être celle de Dante.
C'est une partie de... C'était Dante, pensif, avant de rentrer en enfer.
Ah, oui.
En fait, l'imagination est tellement féconde et tellement... ils imposent, on dit souvent ça, leur vision aux autres. Ils imposent leur rêve aux autres.
Ouais.
Et
Paul Morand disait quelque chose d'assez frappant là-dessus. Il disait... qu'est-ce qu'un bon auteur ? Un bon auteur, c'est celui qui dit avec force et talent ce que tout honnête homme pense en son fort intérieur. C'est-à-dire que tout le monde est... En tout cas, on peut leur prêter cette intention. Je pense que tout le monde est honnête. Les choses qu'on pense, qu'on ressent, qui nous prennent, mais c'est peut-être à peu près les mêmes les uns les autres. Mais quelques hommes arrivent à les dire très bien. Et souvent, on a cette expression, on dit, c'est curieux. Quand quelqu'un est doué pour ça, on lui dit, c'est curieux, vous dites exactement ce que je pense. Oui. Ce que vous dites là, je l'avais sur la langue.
Mais tu vois ce que tu dis, vous dites exactement ce que je pense. Il y a le monde des idées, nous sommes traversés l'idée, et puis il y en a qui sont capables d'exprimer, c'est-à-dire de sortir comme on exprime, on exprime le jus d'une... c'est ça, c'est...
Comme on va sculpter dans le ciel des idées.
Voilà, nous sommes capables,
certains
sont capables d'être... comme disait Céline, d'être puissant, c'est-à-dire d'engendrer, de créer, de façonner, de plastifier. En grec, c'est le verbe poiein, qui est à l'origine du mot poésie, qui créent, ils sortent. Céline disait « je suis le père sperme ». Il faut comprendre pourquoi il dit ça. Oui, quand on lit, on se dit ouais, « il le dit tellement mieux, enfin, il dit tellement ce que je pense ». Mais exactement, c'est la grande différence entre toi et lui. C'est que tu as les mêmes expériences d'homme, mais lui est capable d'en tirer une œuvre créée, une création. C'est ça toute la différence entre le, entre le génie et nous.
Avec un bon livre, c'est qu'on se dit, mais punaise, c'est... Ouais, ouais. Enfin, on lit et de ouais. manière très prétentieuse, ouais. on dit, mais c'est drôle, c'est exactement ouais. moi. Ouais. C'est exactement ce qui m'est arrivé mais, tel ouais. jour avec telle bande de potes, telle situation.
Oui, tout à fait. Mais alors, tu vois pourquoi Céline préférait la musique à la littérature? Parce que la littérature, c'est exprimer des idées, des pensées ou des sensations. Mais la musique, tout ça sans mots. Mais pour Céline, c'est encore plus élevé parce que c'est exprimer de la musique oui. de ton âme.
D'où l'expression être un ouvrier de cette petite musique.
Oui. Et Céline disait ma seule concurrente, c'est la musique. Et il disait moi, je suis jaloux des compositeurs parce qu'ils ne doivent pas utiliser les mots. Lui se méfie totalement des mots qui sont des pierres d'achoppement.
Et d'ailleurs, Dante a voulu son œuvre comme un chant. Homère oui. a voulu ses œuvres comme
toujours,
ses chants. Tout
toujours.
Ça, et normalement, se chante et même s'accompagne avec des tout, instruments
toujours. La poésie, c'est chanter. Du reste, Dante, dans sa jeunesse, pourquoi est-ce qu'il est tellement passionné par la poésie? C'est parce que, parmi la jeunesse dorée dans laquelle il évoluait, on pourrait peut-être un jour aborder sa biographie qui est passionnante, eh bien, c'était la mode de ces espèces de battles entre jeunes gens, ce qu'on appelait des tensons, c'est-à-dire des espèces de moqueries réciproques, tout ça composé selon une certaine prosodie rythmique, etc. Et, d'une part, il y avait donc ces espèces de battles où on se moquait de l'autre, ou alors on s'échangeait des poèmes d'amour. Dans la grande tradition des poèmes d'amour, le fin amour chanté par les troubadours provençaux. Et on en discute. Donc on récite, on se chante, vraiment comme des clashs de rappeurs, si tu veux. Et on regarde qui est le vainqueur, etc. etc. Et donc il y a ça chez lui, il y a cette passion pour tout ce qui relève de la poésie, de la musique, des arts.
Et aussi de la vérité du peuple et de la manière que le peuple a de parler, de la vérité de la rue.
Alors, attention.
Parce que je vais te dire pourquoi je te dis
oui,
ça.
Attention,
parce que je pense à quelqu'un de très précis oui. qui m'a souvent fait penser à Dante. C'est qui? Tu vas pas s'actuer, mais c'est qui? C'est Pasolini. Pourquoi? Parce que ce cinéaste était aussi un écrivain qui plaçait très haut la langue, la vraie langue des jeunes romains peuple de Rome.
Oui.
Mais souvent, il y a cette passion de... Enfin, chez beaucoup d'autres auteurs, mais je pense beaucoup à une analogie Dante-Pasolini pour ce genre de raison, d'essayer de faire entrer, en fait, la langue de la rue dans les livres, dans une certaine académie pour la bouleverser un peu.
Alors, je peux te répondre. Il n'y a pas de lexique que Dante n'épuise pas ou n'utilise pas. Il utilise absolument tous les registres, tous les lexiques à sa disposition, de la même façon que Céline. C'est un peu une tarte à la crêpe de dire que Céline, c'est d'argot. C'est pas vrai. Il l'utilise dans tous les registres. Tu verras dans l'enfer, en général, c'est un lexique plus bas, plus obscur, plus dur, plus âpre, où il n'a pas du tout peur d'utiliser des mots comme « culo », comme « merda », comme « putana ». J'ai des citations, je sais pas si ça t'amuse que je te cite.
Ah, mais c'est très bien.
J'avais pris, en préparant l'émission...
Elles sont traduites comme ça en français ?
Alors,
elles sont traduites que...
Absolument, mais c'est parce que tu sais, au Moyen-Âge, parce que Dante est un homme du Moyen-Âge, pense à Rudebeuf, pense à François Villon, on n'a pas du tout peur des mots. Ça vient après.
Ouais.
Ça, c'est avec la Renaissance. En France, c'est avec Malherbe, où on va l'exclure du champ des possibles, tous ces mots qui sont considérés comme bas, grossiers. Mais ça n'existe pas du tout au Moyen-Âge. Je te donne des exemples.
Rabelais, tiens encore
Rabelais appartient...
Le truc au XVIe siècle, quoi.
Oui, mais il appartient totalement à la lignée Rudebeuf, François Villon, c'est de la lignée, si tu veux, des Fabliaux, des... Où les mots étaient... un chat est un chat, tu vois. Je vais donner un exemple. Il y a trois exemples tirés de l'enfer. Il parle d'un petit diable qui va utiliser... il fait des proutes, il est en train de prouter, et c'est ce son-là qui va signaler aux autres diables « Ok, on doit y aller, on doit partir ». Il dit en italien « E degli avea del cul fatto trombetta ». Et lui, il avait fait de son cul une trompette.
Alors là, je vais encore faire mon Céline, c'est très curieux, parce que cette expression-là me rappelle tout de suite quoi ? Des tableaux délirants de Bruegel et de Jérôme Bosch.
Oui, Jérôme Bosch. Oui,
et
oui.
Qui mettent en scène exactement ce genre d'image-là.
Avec une espèce de flûte dans le cul.
Or, Céline disait qu'il avait été bouleversé par la vision de ces tableaux-là précis. Mm. Et que, en fait, il disait, mais toute mon œuvre, elle est dans ce genre de délire-là, où un type, sa tête, elle commence par celle d'un cachalot, puis ses jambes, ce sont celles d'un bouc. Un autre, il est à l'envers. Enfin,
ils aiment bien le bizarre.
Le tableau Le Jour des Fous.
Ouais, oui.
Céline avait dit que toute son œuvre était dans ce tableau-là, le tableau qui s'appelle Le Jour des Fous.
C'est pas Le Jour des Fous, c'est Le Carnaval des Fous. Mais tu as raison, mais il n'y a pas que ce tableau-là, il y en a d'autres. Mais effectivement, ils aiment le bizarre. Je ne me réjouis que dans le grotesque. Aux confins de la mort. Donc le grotesque, tout ce qui est grotesco. Donc ça, c'est... Bon, tu vois, donc il utilise culo. Ensuite, vidi un col capo si di merda lordo che non si parea sera laico o cerco. Cerco, pardon. J'ai vu sa tête qui était si lourde de merde qu'on ne pouvait pas reconnaître si c'était un laïc ou un clerc, puisqu'à l'époque on reconnaissait à la tonsure des gens s'ils appartenaient au monde laïque ou au monde des clercs.
Même les prêtres étaient tonsurés.
Et donc, vidi un col capo si di merda lordo, il n'a pas du tout peur de dire, sa tête était, parce que bon, c'est un pêcheur qui se retrouve dans une bulge, dans un trou plein de merde, et sa tête était tellement couverte de merde, je pouvais pas savoir si c'était un clerc. Bon, il n'a pas peur de dire, si di merda lordo, tellement lourde de merde. Troisième exemple, il parle d'une femme. Taïde est la putana qui rispose al drudo suo. C'est Thaïs, la putain qui répond à son bac ou à son amant. On va dire son amant. Drudo, par exemple, ça c'est un mot provençal. C'est un des exemples où, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais Dante, comme Céline, puise non seulement dans sa langue, dans son dialecte, mais même dans les dialectes des autres et même dans d'autres langues. L'onsa, noia, drudo, ce sont des mots empruntés au provençal.
Au provençal, donc du nom de la Provence en France.
C'est ça, ouais. Parce que c'est peut-être pas clair, mais pendant 3 siècles, grosso modo, entre 1000 et 1300, il y a vraiment une grande mode, une énorme mode qui est la poésie d'amour, qui est développée dans les cours de tous ces châteaux dans le sud-ouest. Mmh. Évidemment, la grande protectrice de cette ère-là, c'est Aliénor d'Aquitaine, tu te souviens. Et ça va avoir un succès fou en Italie, puis en Espagne, puis évidemment au nord, chez les Trouvères, dans la langue d'Oil. Mais donc la langue d'Oc, l'Occitan, là s'impose.
Oui, c'est d'ailleurs là que beaucoup d'Italiens commencent à s'appeler Francesco et de fille Francesca.
Ah, tu me le dis.
Je crois que Saint François d'Assise.
Ah, intéressant. Ouais,
mais
ouais.
Par exemple, le père de Saint François d'Assise, qui était un marchand qui allait souvent vendre ses produits en Provence.
Oui.
Étant donné qu'il aimait beaucoup cette région-là, a appelé son fils Francesco.
Mais tu l'apprends, ça c'est passionnant. Ça c'est passionnant. Ouais. Mais donc, ça confirme en tout cas une chose. De toute façon, je ne fais que répéter ce que j'ai appris et lu. Et je ne prétends pas du tout être expert, mais. C'est une évidence que la grande poésie, c'est la poésie qui est développée par ces trouvères, plutôt par ces troubadours, en Languedoc. Et cette influence, donc ce sont des jeunes gens qui vont disserter à l'infini en poésie musicale, chantée, sur tous les raffinements de l'amour envers une dame qu'ils ne peuvent pas avoir. Et cette dame va très vite acquérir aussi une stature un peu théologique. Philosophique.
Oui.
Mais à la base.
Là, on voit tout de suite d'où procède. Beach. Enfin, quelle est la motivation de Dante.
À propos de Beach et donc Béatrice, qui est d'abord la petite fille qu'il rencontre à l'âge de 9 ans, dont il tombe complètement amoureux, qu'il ne peut plus voir parce que la société à l'époque est très cloisonnée. Les filles sont vraiment cloisonnées, les garçons sont cloisonnés, on ne se voit pas. Et il retombe sur elle 9 ans plus tard. Et ce qui le rend dingue, c'est qu'elle est à ce moment-là mariée. Elle est entourée de 2 matrones, elle se balade dans la rue, elle reconnaît Durante ou Dante qui rougit, et non seulement elle le reconnaît, mais elle le salue, donc pour la première fois de sa vie, il entend le son de sa voix. Alors il raconte, il fonce dans sa chambre et bon, il se tire sur la carotte, ça c'est une évidence, il raconte
quoi,
que...
Quoi, il l'a dit ça ?
Il l'a dit dans son Vita Nova, qu'il s'endort, il rêve d'elle toute la nuit, il se réveille dans une émotion très très forte. Il raconte que... Bon,
comme quoi, le livre de la femme, c'est vraiment le jour et la nuit. Quoi.
Mais c'est-à-dire que ça, c'est le premier degré d'amour. Ce qui est très beau, c'est que Beach représente toute la gradation de l'amour dans l'être humain. Depuis l'amour le plus incarné, le plus sexualisé, si tu veux, jusque à ce primo amore qui est le premier moteur de l'univers. C'est ça qui est très,
oui,
très beau.
Et la force génésique, quand elle est bien contenue, finalement, elle aide énormément l'homme à accomplir de grandes choses, que ce soit au plan artistique, mais que ce soit même
dans
son travail ou quoi que ce soit.
C'est ce que dit Céline à sa maîtresse Evelyne Paulet, qui écrivait des livres, et lui disait finalement, parce qu'elle n'était pas très forte comme romancière, elle disait, tu sais, finalement, tout est une question de couilles. C'est une question de... Bon, ça ne va pas être très politiquement correct, mais c'est peut-être une des raisons pour laquelle... Alors, j'ose à peine dire ça aujourd'hui, parce que... Mais c'est peut-être une question de couilles qui fait, donc de force génésique, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de force vitale, qui fait que les hommes ont réalisé ce que les femmes ont réalisé beaucoup plus difficilement. Savoir des œuvres d'art.
D'où la phrase de Alain Soral quand il dit la libération de la France passera non par les urnes, mais par les burnes.
Oui, mais ces burnes sont toujours. Et c'est ça la beauté de Beecher et de toutes ces figures féminines, Laura. Pour Pétrarque ou Fiametta chez Boccace, ce sont des figures féminines qui inspirent et qui dirigent. Bon, bref, donc tout ça pour revenir à la langue de Dante. Comme Céline, c'est une langue très riche qui n'a pas peur d'utiliser, on l'a dit, des registres très différents, que ce soit des registres très savants comme le latin d'église pour parler de miséricorde, de beninita, la bénignité, registres triviaux. Il culo, la merda, la putana, donc tous les registres. Et il utilise des mots de son temps, mais pas même aussi des mots qui sont déjà considérés de son temps comme archaïques, exactement comme dans Céline, suffit de dire la trilogie du Nord, la trilogie allemande. Et il y a surtout cette absolue foi dans sa propre langue. Et il le dit clairement, moi je suis animé d'un amour parfait, achevé, tu sais, ultime, diraient les Anglais, pour ma langue. Et il prédit même dans son banquet que c'est ce vulgaire, cette langue donc, ça veut dire la langue maternelle, hein, la langue vulgaire, c'est cette langue-là qui va se
prendre. Dante étant l'auteur de ce livre très étonnant qui s'appelle « L'éloquence du vulgaire », l'éloquence en langue vulgaire, plus exactement si on traduit vraiment, qui est en fait un petit peu son manifeste.
Exactement, bravo.
Pour, oui, une nouvelle langue,
oui,
qui est...
Attention, pas de nouvelles.
Mais disons, c'est manifeste pour une manière d'exprimer l'émotion. Mmh. Et la Divine Comédie va être l'occasion d'accomplir ce manifeste.
D'illustrer,
de mettre en acte.
En fait, il dit, la langue maternelle est tout aussi capable d'exprimer les émotions que la langue qui était considérée jusque-là comme littéraire, qui était le latin. Et il va plus loin, il dit que la langue latine, en réalité, le latin, est en réalité artificielle et morte. C'est très audacieux en 1300. Je rappelle que nous sommes en 1300. Nous ne sommes pas à l'époque, pensons à Dubilet, Ronsard, chez les poètes de la Pléiade, qui vont affirmer la même chose au XVIe siècle. Là, nous sommes en 1300. C'est quand même, officiellement, c'est la langue latine dans laquelle Thomas d'Aquin va s'exprimer, par exemple. Or, cette mode entre jeunes garçons d'exprimer leur poésie, amoureuse, d'exprimer leurs amours, leurs émois amoureux, dans leur langue, influencée donc par la poésie
provençale. Dans la langue qu'ils parlent tous les jours, la langue même qu'ils vont.
Voilà,
qu'ils vont
exactement.
Parler à...
Mais qu'ils vont chercher évidemment à raffiner dans leur langue. Mais,
ouais,
mais ce que fait Dante, ça existe donc de son temps. Mais lui va utiliser ça pour faire l'immense œuvre qu'il fait, qui est son poème sacré, qui est sa comédie. De la même façon que Céline, quand il écrit son Voyage au bout de la nuit, des tentatives en langue populaire existaient déjà. Mais Céline va porter cette tentative-là au sommet, au point de fusion avec son Voyage au bout de la nuit, et puis il ira encore beaucoup plus loin avec Mort à crédit, etc., etc. Tu vois, donc c'est la même chose. Comme disait Claude Duneton, c'est pas une révolution, Céline. C'est la floraison de quelque chose qui se préparait. De la même façon,
oui, ces auteurs-là, que ce soit
Laurent,
que ce soit Céline ou que ce soit tous les grands auteurs,
sont la floraison.
Oui, même s'ils inventent des formes nouvelles, ils ont encore l'humilité de s'inscrire dans une certaine tradition tout de même.
Oui, mais
qui sont les prédécesseurs de Dante? Alors, est-ce qu'il y en aurait dans ce cas?
Ben, son ami qui était très connu, Guido Cavalcanti, puis il y a toute la poésie du Philamore de 1000 à 1300, tu as tous ces grands poètes, ces troubadours.
Et qui était peut-être une tradition très populaire, et Dante vient
attention,
donner des lettres de noblesse.
Attention, non. Non, parce que c'est la poésie qui est chantée dans les cours. Alors attention, on a pendant longtemps cru que les troubadours et les trouvères étaient des gens, tu sais, des espèces de saltimbanques. Pas du tout, ce sont des fils de très très bonnes familles qui se font effectivement accompagner par le chanteur, le joueur de lutte, etc. Mais sont des hommes
de milieu aisé, déjà parce qu'ils ont du temps pour aller faire ça.
Et puis qui ont du temps pour étudier d'abord. Il faut étudier. Ouais. Ça vient pas tout seul.
C'est
ça.
Donc c'est des gens qui ont eu du temps libre, du temps consacré aux belles lettres, aux beaux arts.
Oui, mais
l'osium dans la vraie tradition.
Oui, c'est ça. Libre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand tu dis populaire, faut faire attention. Il s'agit d'une certaine catégorie sociale, mais malgré tout, il y a vraiment des parallèles à tirer avec les jeunes de banlieue qui décident, au lieu de se flinguer, au lieu de se taper dessus, se disent bon ben, on va un petit peu se faire des joutes verbales. Moi, j'ai encore connu ça chez les scouts quand j'étais petit. Il y a cette tradition dans la poésie provençale des tensons. Je sais pas si tu connais ça, les tensons. T-E-N-C-C-D-O-N. Ben, en pratique, c'est quoi un tanson ? C'est tu as deux gars qui font une joute verbale en suivant un schéma métrique et prosodique bien précis. Donc en suivant une ligne, une mélopée, si tu veux, et un certain nombre de syllabes. Et c'est un jeu de à qui va insulter le mieux l'autre. Donc c'est un échange d'insultes. Ça remonte à très loin, parce que ça existe déjà dans la poésie grecque. Il faut voir Théocrite, Virgile. On voit ça chez les pâtres, tu sais, chez les pasteurs, ils s'emmerdent. Et donc c'est un peu un jeu pour faire passer le temps. Et quand j'étais petit chez les scouts, deux équipes, on est 3-4 par équipe. En général, évidemment, c'est le chef qui prend un peu Et donc, pendant que l'autre équipe est en train de chanter des insultes sur nous, ah, celui-ci, tu sais, un nez trop long, celui-là, cheveux trop crépus, enfin, peu importe, nous, on doit vite écrire une répartie.
D'accord.
Tu vois, et donc, c'est un échange. Mais ça, ça remonte à très très loin. Les tensons. Ce jeu.
C'est les joutes.
Des joutes verbales. Non, pas intellectuelles, verbales. Il s'agit vraiment de se moquer. Donc, il y a les joutes verbales, les tensons, mais il y a aussi les échanges de finamore, donc de poésie amoureuse. Qui va parler de la manière la plus raffinée de l'amour?
L'amour courtois, quoi.
C'est ce qu'on appelle l'amour courtois. Qui va exprimer le mieux la force extrêmement virulente et violente que c'est pour un gamin de 18 ans? Ce machin qu'il a en lui, alors que les filles sont quand même gardées loin de lui, pensons à Florence. Et faut-il, le grand débat, c'est faut-il se soumettre à l'amour ou faut-il, au contraire,
mépriser,
le laisser. Ça, c'est le grand débat entre tous ces garçons. On a parlé de Guido Cavalcanti, qui dira à Dante,
il va limite le considérer comme un...
Tombe pas dans les jupons, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Te laisse pas avoir par la paix des jupons.
Il va le considérer comme un espèce d'être alangui ou un peu amoli par les
autres. Pas ça, mais il y a vraiment deux attitudes. Or, ouais. Dante, lui, prend le contre-coup de son meilleur pote en lui disant « Non, non, en réalité, cet amour-là... »
Je l'ai sublimé dans une œuvre et je me suis pas laissé détremper par Nicoron.
J'ai dû l'utiliser pour faire autre chose.
Ouais.
Bref, c'est un débat que tu te vois ça.
Ah, bien sûr.
Est-ce que je me laisse avoir? Est-ce que je le méprise?
Et c'est un peu le combat qu'il y a dans le Cyrano de Bergerac entre Cyrano qui est tout esprit et Roxane par l'intermédiaire de Christian, quoi, qui lui est le.
Non, c'est Roxane qui est tout esprit. C'est Roxane qui veut.
Mais Roxane, elle est tout esprit, mais elle est stupide. Alors que Cyrano, il est esprit, mais lui, il sait tout, il a tout compris. Ouais. Et seulement, il n'a pas le droit de l'approcher. En tout cas, il se dit
non, mais c'est Christian qui veut la toucher.
Ouais.
Et elle,
mais lui, il est stupide aussi. Mais lui, il est stupide aussi.
Oui, mais ça, je pense pas que ça rentre dans le.
Si, bien sûr que si. Cyrano se fait lors de la scène du balcon la voix et le
cerveau
et le cœur de ce type qui est juste un corps.
C'est ça. Oui, donc tu veux comparer ça avec la poésie de Philamore, où les garçons, en fait, pensent qu'il y a une chose, pendant qu'elles veulent n'entendre que des jolis mots.
C'est ça, exactement.
D'accord,
oui,
c'est ça que tu veux dire, d'accord.
C'est ça qu'il y a chez Roxane, c'est très drôle, cette scène aussi. Ouais. Oui, parlez-moi d'amour, et l'autre, je vous aime. L'autre, elle est dégoûtée.
Oui, mais en même temps, c'est parce qu'elle exige que lui doit se raffiner, justement, s'affiner à l'amour. Évidemment, ça peut tomber, c'est Molière qui s'en moque dans Les Femmes Savantes, je crois, ça peut tomber dans un raffinement intellectualisant Casburne.
Mais vous savez, ce mouvement là qui est tellement moqué, qui est le mouvement qui avait au tout début du 17e siècle, qui était ce qu'on appelait là, c'est tout ce qui est autour de la carte du tendre. La préciosité.
Ah oui, voilà. les précieuses.
C'est ça, les précieuses ridicules. C'est le mouvement de la préciosité.
C'est les précieuses.
Qui est une. Alors on ne sait pas.
Oui,
si
mais c'est ça.
En fait, c'est un type.
Mais c'est un raffinement qui devient trop raffiné.
Trop raffiné, qui devient efféminé.
Voilà, c'est ça.
Que Dante, il est encore viril. Dante, il parle encore comme un bonhomme. Il est là avec toute sa passion pour la fille, mais il l'a pas touchée, il l'a pas encore eue, et il veut quand même la voir. Et Ovid disait dans l'Art d'aimer, tu dois ça. Il disait comme conseil aux jeunes. Amoureux, il leur disait, tu dois simplement t'assurer qu'elles lisent jusqu'au bout tes phrases. Ça, c'est un conseil qu'on pourrait, donner à des jeunes qui savent pas quoi faire. Mais dans ce genre de cas, c'est que, en fait, si vous êtes trop anxieux, faites du sport, et puis aussi lisez, et écrivez, des fois. La fille, écrivez-lui des trucs.
Mais c'est ce que je dis.
Assurez-vous que ce soit tellement intéressant ce que vous avez à lui dire, qu'elle va lire vos phrases jusqu'au bout. Ce sera déjà beaucoup. Et c'est ici ce que fait, en fait, Dante dans ce poème fleuve, d'une certaine manière. Non, mais lui, il s'est pas laissé détremper par la chose. Il est pas allé, trop loin dans le raffinement des formes.
Je dirais pas ça.
Dans les volutes et les arabesques.
Je dirais pas ça parce qu'elle meurt en 1290, Beatrice. Et il s'était promis dans un poème, qu'il rapporte dans la Vita Nova, que, il allait écrire d'elle. Ah, je lis en italien. Tu veux que je te récite?
Récite de tête, je crois.
Dans celui-là, je le connais pas par contre, mais enfin, c'est piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono che la mia vita duri per alquanti anni. Io spero di disser di lei quello che mai non fu detto dal cura. C'est magnifique. Donc si ça fait plaisir à celui qui je résume, si ça fait plaisir à Dieu qu'il me reste quelques années de vie, j'espère dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune femme.
Ouais,
en 1290, il se jure à lui-même, et effectivement, quand il commence à rédiger pendant son exil très douloureux, l'enfer et puis le purgatoire et le paradis, c'est très beau parce que c'est l'amour qui a, c'est par souvenir de cet amour qui n'a jamais été évidemment consommé, et qu'il va, à la façon de tous ces hommes du Moyen-Âge, qui va lié à l'amour de la philosophie. Béatrice est d'abord une fille, mais après, à travers elle, c'est la philosophie, c'est la beauté, c'est tout ce qui élève, ce qu'il élève lui.
La beauté physique a presque un sens dans l'espace idéal des.
Mais c'est la porte, c'est la porte qui amène. Tu sais, c'est Platon qui disait ça. Céline dit très bien. Il dit la beauté, on sait que ça meurt, et comme ça, on sait que ça existe. C'est très difficile de parler de beauté, mais les formes permettent un peu la conscience d'une idée. Je ne sais pas comment te dire ça, mais donc, Béatrice, par sa beauté...
La beauté physique dit davantage que ce que l'on peut en voir, en fait.
Elle suggère, moi j'utiliserais le verbe suggère, c'est par la beauté physique qu'on a la suggestion qu'il y a une beauté idéale dans le sens de Platon des idées. Si tu veux qu'il existe derrière tout ça, parce que c'est quand même très curieux. Très curieux qu'on sache... On ne sait pas pourquoi. Tu me demanderais pourquoi est-ce que telle œuvre d'art ou telle femme est belle. Je dirais les choses, et pour toi, tu pourrais très très bien me contredire à tout instant en disant « c'est pas du tout vrai ». Mais pour toi, c'est beau. C'est comme ça, tu sais pas, il y a une espèce d'harmonie en toi, un truc très... C'est comme ça.
Eh ben, Lapine fait un essai, écrit sur un papier, décrit par le Logos... La plus haute beauté physique féminine que tu aies connue, ça donnera rien. Une description, elle avait le nez comme ci, ça donnera rien. Ça donne jamais rien. Ça ne donne même pas l'idée de ce qu'elle est. Il n'y a pas la vibration, il n'y a pas le nacré, il n'y a pas tout ça.
Ce que je veux dire, c'est une banalité, là je vais enfoncer les portes ouvertes, mais c'est évident que derrière, c'est même très curieux de constater et de reconstater à travers les siècles toujours cette même permanence de l'influence féminine. Derrière toute grande œuvre, je veux dire, je rappelle quand même que l'Iliade et l'Odyssée, c'est quand même le retour... chez sa femme.
De Ulysse, qui est permis par Ulysse. Athéna. Athéna qui l'a prise tellement sous sa protection qu'elle en est prise aussi.
L'élément féminin, et la muse, au fond, c'est la muse qui inspire, c'est jamais la muse. C'est très curieux. La suggestion est considérée comme quelque chose qui vient du féminin. On va parler de manière générale, le féminin suggère, et c'est le masculin qui, quelque part, opère ou réalise. Mais il n'opère et ne réalise que sous la puissance de cette suggestion féminine. Alors, pour revenir à Beecher, tu me disais, la Divine Comédie est un poème qui est la réalisation d'une promesse qui s'était faite à la mort de cette Beecher qu'il n'avait vue que deux fois. Je veux dire, c'est complètement fou. Il la voit la première fois quand il a 9 ans, elle en a 8. C'est la fille de Folco Portinari, c'est une des plus grandes familles de son quartier. Et si on se pose la question comment est-ce qu'il peut voir une fille, mais parce qu'à cet âge-là, les garçons et les filles étaient encore ensemble. Dès que la fille entre en puberté, elle est complètement séparée, gardée à part, jusqu'au moment où la famille décide, tu épouseras un tel, et là, elle sort de la maison. Bon bref, donc Beach, évidemment, il a Béatrice, il la rencontre quand elle a 9 ans. Par hasard, il la reverra, c'est toute l'histoire de la Vita Nova, quand elle aura 18 ans, 17 ans, pardon, et lui en avait 18, et que dans la rue, elle le reconnaît, et non seulement elle le reconnaît, mais elle le salue, ce qui est une émotion extraordinaire pour ce garçon, puisque, je rappelle, les filles, c'est vraiment monde à part. Moi, ça me fait un peu penser, quand j'avais étudié au Maroc, et en Égypte, j'avais été frappé par tous ces jeunes garçons qui n'arrêtaient pas de parler de filles, alors qu'elles étaient complètement inaccessibles pour eux, et pas question de prendre la main de son amoureuse dans la rue, etc. Et c'est curieux, parce que plus ils étaient séparés, plus leur, la virulence, la violence de leurs sentiments était prégnante, je veux dire. Et moi, je trouve que chez Dante, cette société-là, toscane ou florentine, ça m'évoque ça.
L'amour, c'est encore plus intéressant quand c'est interdit.
Tu connais Henri Vincenot ?
Oui, le bourguignon ?
Oui. Et il explique justement dans ses livres que dans les villages en Bourgogne, il a encore connu aussi des villages, enfin c'est toute son enfance, où la vie des femmes et la vie des hommes étaient franchement séparées. Tout était fait, au fond, pour accroître le désir des jeunes garçons envers les jeunes filles, en les séparant. Tu sais, c'est comme deux pôles positifs et négatifs qui n'ont que plus d'attraction.
Et qui vont créer l'électricité par cet antagonisme.
Alors que quand ils sont toujours ensemble, ça s'épuise.
Bien sûr.
C'est à l'inverse
de nous.
Ils
sont chargés l'un l'autre.
Mais parce qu'ils ont. D'abord parce que c'est un mystère. Ouais. Ça excite la curiosité, évidemment, et chez la fille et chez les garçons.
Et on voit la sagesse de ces traditions-là qui. Quel en était le fruit ? C'était de faire beaucoup de familles, beaucoup de mariages et beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, dans cette indifférenciation totale, on en est à faire changer de sexe. Des pauvres jeunes adolescents, et résultat, il n'y a plus du tout d'enfants. Ouais, et en plus, il y a l'avortement de manière industrielle. Ouais. C'est vraiment le crime contre l'humanité. Ouais.
Pour revenir à Durante, donc Dante, pour ceux qui ne le savent pas, Dante, c'est l'abréviation, comme ça se faisait souvent en Florence, de tous les prénoms. Dante, c'est l'abréviation de Durante, en français Durand, simplement Durand. Comme Vanni, c'est l'abréviation de Giovanni, Maso, c'est l'abréviation de Tommaso. Donc, quand on dit Dante, on utilisait dans les archives de l'époque, on voit indifféremment apparaître son prénom sous la forme abrégée Dante ou sous la forme correcte Durante. Donc, quand Dante tombe en émoi et raconte l'émoi incroyable qu'a été pour lui, non seulement d'avoir été reconnu dans la rue alors qu'il cherchait à se cacher, tellement il explique que je suis rouge d'émotion, et elle est là, elle mariée, accompagnée de deux matrones, elle a 17 ans, à ce moment-là, c'est... Elle peut sortir de la maison puisqu'il est accompagné. C'est une femme mariée, en plus, c'est un des plus grands banquiers de l'époque. Non seulement il se fait remarquer, reconnaître, mais en plus, il se fait saluer. Émotion absolue.
Par cette femme qui est une femme noble. Et lui, est-il de condition noble ?
Non, pas du tout.
Donc, c'est vraiment... oui, il y a vraiment ici... elle a presque franchi ligne quand elle fait ça.
Quand je dis pas du tout... Ils habitent le même quartier, qui est un quartier très, très chic. Quand je dis quartier, il y a 6 quartiers... Enfin, on dit un quartiere, mais en fait, à Florence, on dit un sestiere, parce que la ville est séparée
en six arrondissements.
Oui, c'est ça. Tu comprends, parce qu'en français, quand on dit un quartier, on a oublié que ça venait de un quart. Mais ils habitent la même partie riche et célèbre de la ville, où se trouvent toutes les gens les plus... les meilleures familles. Les Dante, c'est une famille qui est une famille d'usuriers, en réalité. On dirait d'hommes d'affaires, puisqu'ils appartenaient à Florence. Mais techniquement, c'était des usuriers. Dante n'a pas accès à cette Bice Portinari. Tout simplement parce que si ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tout ont fait fortune en prêtant de l'argent, etc., ils n'appartiennent pas à ce monde des grandes familles, comme les Portinari, les Cerchi, les Spini, enfin toutes ces familles, les Cavalcanti, etc., etc. Et donc, il voit cette jeune fille parce que lui et son père sont invités dans ce palais local du quartier où le folk Portinari organise une fête, comme on en faisait beaucoup à l'époque. Et lui, évidemment, à l'âge de 9 ans, il ne peut pas savoir qu'il ne peut pas avoir accès à elle. Et puis petit à petit, évidemment, il le voit qu'il ne peut pas. Il explique, je n'arrête pas de la chercher, l'amour me commande que tous les jours je la vois nulle part. Puis petit à petit, il comprend qu'il n'aura jamais accès C'est trop haut pour lui, tu vois.
C'est un peu comme l'empirer, quoi. Il va falloir qu'il passe par l'enfer pour essayer de s'en approcher. Que le temps qui passe et tout ce que nous avons vu, il va falloir que nous pensions à refermer la page de cette émission. Qu'est-ce que, pour finir, tu pourrais conseiller à nos auditeurs qui vont offrir ce livre ou le lire eux-mêmes ou le donner à lire à certains de leurs proches? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour aborder l'œuvre dans les meilleures conditions?
Déjà, lire une bonne biographie. Moi, je conseille celle d'Alessandro Barbero. C'est une biographie de Dante qui est parue il n'y a pas longtemps. Très vivante.
Donc, d'ajouter à la Divine Comédie une meilleure connaissance de Dante par cette biographie.
Mais c'est tellement passionnant de enfin se plonger, je répète, de manière vivante, pas du tout de manière, tu sais, comme les universitaires.
Pas de manière académique, de manière lourde.
Quoi. Lui est très fort. Alessandro Barbero. C'est facile, hein. Et c'est une star en Italie. À chacune de ses conférences, chacune de ses vidéos fait plusieurs millions de vues, tellement il est animé d'un enthousiasme, à mon avis, qu'il a pierre de touche pour reconnaître les esprits, les bons esprits.
Enthousiasme, le Dieu en nous.
Le Dieu en nous. Et donc, une bonne biographie pour, disons, plonger avec gravissement dans cette époque où l'on voit la construction de la cathédrale que tu connais, la construction du baptistère que tu connais, Maria Novella, les monastères, la Florence que tu visites aujourd'hui, c'est la Florence de Dante. Déjà une bonne biographie, et puis c'est formidable parce qu'à travers Dante, c'est quand même l'histoire de la lutte entre l'Empire germanique et les papes qui petit à petit vont...
C'est-à-dire entre pouvoir temporel et spirituel. Alors, quelque chose vraiment d'intemporel et d'universel dans cette œuvre de Dante qui peut parler peut-être à tous les amoureux, à tous les chercheurs d'idéal aussi, à tous les religieux, à tous les mystiques, mais aussi à tous les agnostiques.
Mais je crois que c'est une fenêtre. Quiconque s'intéresse à Homère finit par s'intéresser à l'histoire des cités grecques. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, il faut être... À mon avis, il faut pas avoir peur, faut pas avoir crainte de pas comprendre grand chose au début. Mais bon, ça a été mon cas. Enfin, on est tous passés par là. Et puis, à force de, on se passionne pour, on finit par même étudier la langue, ce que j'ai fait. Parce que, encore une fois, ce sont des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que ça charrie avec eux tellement de choses que tu t'enrichis.
Finalement, on peut dire que se plonger dans cette œuvre-là sera certainement l'occasion d'en rencontrer beaucoup d'autres.
Ben oui, tout à fait.
Et peut-être même ça peut être aussi un point d'appui pour en produire soi-même, pour trouver des inspirations, des sources d'inspiration.
Ça, ce serait super.
Ouais, voilà.
Mais en tout cas, pour moi, je comprends mieux Dante grâce à Céline et vice-versa.
Ah ouais.
C'est ça qui est très impressionnant. De la façon que grâce à Céline, j'ai mieux compris certaines choses dans Homère. Il y a des constances.
Oui, puisque les grands hommes communiquent entre eux finalement, et c'est à nous lecteurs de trouver ces.
C'est à nous à nous élever. C'est à nous à nous élever. Ouais. Et ça demande de la patience, de l'humilité, de l'amour, de l'enthousiasme, je crois.
Nous élever jusqu'à l'Empyrée, qui est le dernier lieu dans le paradis de Dante. Et c'est aussi un peu ça le but. Et le travail de contre-culture, d'égalité et réconciliation, c'est de faire monter le niveau, toujours. Bien sûr, ben merci mon cher Lapine pour ce temps, pour cet entretien, c'était passionnant. Ouais. Voilà, chers auditeurs, c'était Éloquence du Vulgaire numéro 9 avec le camarade Lapine qui nous a parlé de Dante et de la Divine Comédie. C'était passionnant, merci beaucoup, à bientôt.
Éloquence du Vulgaire avec Lounès Darbois, une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme Pur Son, Ring de Bâtard et Pureté Dangereuse. Une émission qui sera aussi
un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
T'es une merde, je te dis, moi.
Hey! Joey! The Grosse
Éloquence du Vulgaire.